Georges Haddad, vous êtes président de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, dont le site Tolbiac-Pierre Mendès France est actuellement occupé. Je vous demanderai pas si la fac française est bottom-up, encore qu'elle est un peu sans dessus-dessous, avec de la politique, puisque on voit qu'il y a une forte politisation des étudiants, en tout cas de ceux qui aujourd'hui occupent certaines facs, avec des revendications assez précises, Georges Haddad.
Oui, effectivement. Et quand vous dites qu'il y a une dimension politique, l'université a une dimension politique, c'est clair. Former, produire des connaissances nouvelles par la recherche, mais aussi préparer des citoyens. Préparer des citoyens à leur responsabilité politique. Donc l'université n'est pas simplement un lieu de passivité éducative, mais aussi un lieu de construction d'un parcours citoyen pour chaque jeune et moins jeune. N'oublions pas la formation tout au long de la vie, qui est une des missions fondamentales de l'université. Je vais vous me permettre de lancer un message. Vous m'offrez cette tribune extraordinaire. Moi, je fais appel à ces jeunes qui occupent le centre Pierre Mendès France Tolbiac. Je leur dis, mon propos n'est pas d'empêcher le dialogue, n'est pas d'empêcher le débat. Bien au contraire, je l'ai dit, l'université est un lieu de débat politique. Je leur demande simplement de permettre au président d'université, aussi modeste soit-il, je suis d'abord et avant tout un enseignant-chercheur. Je ne suis président que pour quelques années. Je suis élu et je veux mériter la confiance de toutes celles et ceux qui m'ont élu, dont les étudiants, bien sûr. Donc je leur demande de m'aider à sauver le semestre en pensant à tous ces étudiants qui sont un peu dans le désespoir aujourd'hui et dans l'inquiétude. Et pour cela, je leur demande de libérer, dans la mesure du possible, ce blocus et je leur offre, et là je m'engage publiquement sur votre antenne, en permanence un amphithéâtre quotidiennement pour organiser tous les débats qu'ils voudront organiser. Et je trouve que c'est une façon de leur tendre la main, j'espère, intelligente.
Certaines facs sont bloquées par des étudiants qui réclament, par exemple, la démission d'Emmanuel Macron. Qu'en pensez-vous ? Vous en avez, vous aussi, des étudiants qui réclament ?
Ah oui, ils l'ont dit. On veut aller jusqu'à la démission du président Macron. Je trouve ça stupide.
Qu'est-ce qui est visé ?
Et irréaliste, ça n'a pas de sens.
Au-delà de ça, il y a, donc, semble-t-il, une volonté de s'opposer à la politique gouvernementale. Qu'est-ce qu'il vise dans cette politique ?
Eh bien, ce qu'il vise, c'est d'abord, et je l'ai dit, j'ai comparé un peu Tolbiac à une sorte de Notre-Dame-des-Landes universitaire. Ils veulent faire céder. Ils veulent faire céder le gouvernement, et en particulier la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sur cette loi OR, intitulée Parcoursup. Ils pensent, parfois à juste titre, que c'est une forme de sélection, mais une sélection qui a quand même un degré de responsabilité qui me paraît intéressant.
Intéressant, vous avez dit tout à l'heure pendant le journal que cette forme de sélection était avant tout irréaliste puisqu'il allait vous falloir noter des étudiants avec des notes à trois décimales, oui. Alors même qu'il ne pouvait pas y avoir d'ex-aequo. Enfin bref, une sorte d'usine à gaz, il faut appeler un chat un chat.
Ça c'est clair, mais ce qui m'intéresse c'est de responsabiliser l'université. Aujourd'hui, l'université doit porter la responsabilité de l'accueil des jeunes et d'assurer un pacte à la réussite. Lorsque les bacheliers viennent de manière centralisée, l'université a beau jeu de dire « mais c'est pas moi qui les ai choisis ». Donc là aussi, c'est accompagner, mais aussi créer un mouvement de solidarité interuniversitaire pour que tous les bacheliers aient accès à l'université.
On écoute des étudiants, paroles d'étudiants en colère, c'était le 12 septembre dernier.
Ce qui est assez clair, c'est que l'attaque, elle est globale. Il y a évidemment la loi travail, et ça, c'est une attaque sans précédent sur les acquis sociaux qu'on a, mais il y a aussi des attaques sur la jeunesse. Il y a la suppression de 150 000 contrats aidés.
On se bat aussi pour notre avenir, nos parents, nos enfants, nos petits-enfants.
Évidemment, quand cette rentrée, il y a un nombre de sujets qui commencent à s'accumuler avec le gouvernement. Il y a cette loi-là, mais il y a aussi la question des inscriptions à l'université, la baisse des APL, les mauvaises conditions d'études. Donc ça fait un tas de sujets de mécontentement envers le gouvernement.
Qu'est-ce que vous en pensez, Georges Haddad ? Est-ce que vos étudiants sont semblables à ceux qu'on vient d'entendre? Ils ont un certain nombre de revendications et au-delà, ils sont, semble-t-il, à la fois inquiets, mécontents de ce futur qu'on leur réserve.
Bien sûr, et quand vous dites vos étudiants, j'en ai 45 000. Nous avons 45 000 étudiants et quand on voit le taux de participation, vous avez parlé de la proportionnelle, etc. Vous savez quel est le taux de participation des étudiants aux élections universitaires? Ça dépasse rarement les 10%. 10% d'étudiants qui se sentent mobilisés par le vote étudiant. Nous n'avons pas pu organiser nos élections étudiantes parce qu'il y a eu de la violence et les étudiants n'ont pas pu voter.
Mais alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les syndicats étudiants, ils sont peu représentatifs? Ça veut dire que finalement, ces grévistes, ils sont grévistes hors de tout système justement de représentation? C'est ce que semble dire par exemple l'article de Libération qui est consacré aujourd'hui à ce mouvement social. On a effectivement un représentant donc de syndicats étudiants qui conteste la légitimité de ceux qui s'organisent en Assemblée Générale. Je précise que c'est un représentant de la FAGE, la Fédération des Associations Générales Étudiantes.
Oui, ben c'est vrai. Je pense que les organisations étudiantes, les syndicats étudiants, les associations étudiantes sont aujourd'hui un peu dépassées. Comme en mai 68, les syndicats ont été dépassés par le mouvement. Et on a vu ce que ça a donné ensuite quand il a fallu le récupérer politiquement et syndicalement. Ben le mouvement s'est effondré.
Quels sont les syndicats étudiants principaux? Qu'est-ce qu'ils réclament aujourd'hui?
Alors, les syndicats, vous avez l'UNEF traditionnel, vous avez l'UNI qui est plutôt à droite, l'UNEF est à gauche, mais nous avons aussi la FAGE, des mouvements associatifs de différentes tendances et de différentes cultures associatives. Donc c'est très diversifié. Mais ce qui est absolument scandaleux, c'est le faible taux de participation des étudiants, ce qui prouve que les étudiants ne se sentent pas concernés par ces élections étudiantes et par ces associations qui les représentent tant bien que mal. Lorsque 10% votent, ce n'est pas suffisant pour avoir une légitimité.
Traditionnellement, les pouvoirs politiques négocient avec les syndicats étudiants. Ils ont tort, d'après vous?
Ils n'ont pas le choix. De toute façon, avec qui voulez-vous qu'ils négocient? Avec la majorité silencieuse et passive?
Il peut y avoir des coordinations.
Il pourrait y avoir des coordinations. Et je pense que le mouvement actuel est en train de dépasser le cadre syndical, le cadre associatif, pour porter une voix nouvelle. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas comment cela va être récupéré, là aussi. Comme en 68, vous avez parlé de nostalgie.
Inutile de remonter jusqu'en 68. On a l'habitude de voir les coordinations étudiantes avec, évidemment, un certain nombre de partis politiques qui s'immiscent à l'intérieur de ces coordinations. Parti de gauche, c'est ce que vous observez aujourd'hui, Georges Haddad?
Oui, bien sûr. Et je vais même vous faire part d'une anecdote. Vous le savez, j'ai été président de cette université il y a 28 ans. J'ai été le plus jeune président de cette université il y a 28 ans. Et je m'étais inquiété de ce faible taux de participation. Eh bien, j'avais fait tous les amphis de l'université pour inciter les étudiants à voter. Eh bien, pendant 2 années, les 2 premières années de ma présidence, de 89 à 91, le taux de participation des étudiants était passé de 8% à 27%. Eh bien, vous savez qui m'en a voulu? Les syndicats étudiants.
Pourquoi?
Parce que ça avait changé complètement la géométrie aujourd'hui de la représentation, c'est tout.
Mais alors attendez, parce que c'est important ce que vous avez dit précédemment. Vous m'avez répondu oui à la question de savoir s'il y avait des récupérations politiques du mouvement. Alors, s'il y a des récupérations politiques, elles viennent de qui?
Je crois que tout le monde va essayer de récupérer...
Non mais là, aujourd'hui, apparemment, c'est pas La République En Marche qui...
C'est certainement pas La République En Marche, c'est certainement pas le Parti Républicain, LR, c'est certainement pas le Front National. Moi, je crois qu'il faut regarder du côté de la gauche, la gauche-gauche. Même pas ce Parti Socialiste qui essaye de survivre. Je crois que c'est ailleurs que ça se passe et il faudrait...
Donc quoi, la France Insoumise?
La France Insoumise est même encore plus à gauche que la France Insoumise. Donc je crois qu'il va y avoir, il y a une tentative de récupération. Mais ce dont j'ai peur, c'est que les forces opposées utilisent aussi ce mouvement pour...
Alors ça, c'est ce qu'on a observé à Montpellier. Ça veut dire aussi qu'il y a une récupération de la part de l'extrême droite, de la contre-manifestation, je ne sais pas comment l'appeler, ou bien qu'il y a aussi une part de vos étudiants qui sont des étudiants engagés à l'extrême droite, Georges Haddad.
Il y a des listes d'extrême droite pour les élections à Paris 1, et c'est nouveau à ce niveau-là. À Paris 1, Panthéon-Sorbonne, qui est une grande université à dimension politique, elle était plutôt située au centre, gauche ou à gauche. Et là, nous avons des listes d'extrême droite, la Cocarde, et les Patriotes, etc., qui se présentent.
Et avec quel score?
On n'a pas pu organiser les élections. Et justement, il y a eu une crainte. On m'a même accusé...
C'est la première année.
À ce niveau-là, oui, c'est la première année à ma connaissance. Je ferai mon mea culpa si ce n'est pas le cas. Et on m'a même accusé, en organisant les élections envers et contre tout, de faire le jeu de l'extrême droite. Moi, je trouve que c'est une accusation qui, à mon propos, à mon encontre, est d'une indignité total.
Les mouvements des associations, des syndicats et des étudiants qui s'opposent à la grève, puisqu'on a vu qu'un certain nombre d'incidents sporadiques avaient éclaté à ce sujet, parce qu'il y avait des affrontements entre les grévistes et les non-grévistes, qui aussi fait partie de la tradition estudiantine. Est-ce que vous jugez que ces non-grévistes ont raison, Georges Haddad ? Est-ce qu'il y a véritablement aujourd'hui péril sur les examens et un risque que les diplômes validés n'aient pas la même valeur que s'ils avaient permis à ces étudiants de suivre tous les cours ?
Alors, ça, je vais vous le dire, nous resterons toujours au niveau de la qualité et de l'excellence. Il est hors de question que nous délivrions des diplômes si la qualité et l'excellence ne sont pas au rendez-vous. Paris 1, Panthéon-Sorbonne a une culture de l'excellence à tout prix. Bon, donc là aussi, il y a un risque. Il y a un risque. Nous sommes en train d'y réfléchir avec les directeurs de composantes, les doyens, les directeurs du FR, pour essayer de sauver le semestre. C'est pour ça que j'en appelle à ces occupants qui... en leur disant « Sauvons le semestre, c'est votre responsabilité, à vous aussi. » Mais je vous laisse un lieu de débat permanent et vous pourrez débattre de tout ce que vous voudrez dans le respect, dans la dignité, dans la sérénité. Mais respectez aussi ces 99% d'étudiants de l'université qui veulent avoir leur diplôme et ils en ont besoin.
Le problème, Georges Haddad, c'est que finalement, je le rappelle, vous avez signé une tribune il y a quelques mois pour dire que la situation de la fac aujourd'hui n'était plus tenable, que vous manquiez de moyens et par conséquent, ces revendications, pour partie en tout cas, vous les comprenez.
Mais bien sûr que je les comprends sur le fond. Il y a une forme de désespérance, il y a une forme de mal-être, il y a une forme d'inquiétude certaine chez ces jeunes. Même ceux qui ne font pas la grève, même ceux qui ne font pas le blocus, ils ont peur. Leur avenir n'est pas aussi radieux qu'il ne devrait être dans leur vision.
Hein. J'ai dit tout à l'heure que la situation de la fac était une situation miséreuse. Vous m'avez repris sur ce terme. Et puis quand j'ai fait une comparaison entre les grandes écoles et la fac, là, vous avez dit
là,
oui, alors effectivement,
c'est, oui, bien sûr.
C'est la misère. Il y a aujourd'hui, un peu comme en 68 d'ailleurs, le fait que la fac est aujourd'hui soumise à une forte pression démographique. Vous avez 45 000 étudiants. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez 1000 places en maths et...
En droit, en maths, on en a moins.
24 000
à peu
personnes
près,
se présentent. Ce qui témoigne en quelque sorte de la pression à laquelle vous êtes soumis. Et ce qui veut dire aussi, Georges Haddad, que vous allez avoir 23 000 déçus qui vont aller, on ne sait où, dans d'autres filières à Paris 1, ils vont aller dans d'autres...
Non, je l'ai dit clairement et je souhaite une solidarité au niveau des présidents d'université et une action au niveau gouvernemental pour qu'à l'issue de ce processus, qui j'espère nous permettra de sortir honnêtement et dignement de cette sélection que nous devons mettre en place, eh bien nous puissions ensuite assurer à tous les bacheliers qui n'auront pas trouvé de place une entrée à l'université dans la filière, dans une des filières de leur choix. Nous avons les moyens de les accueillir.
Mais comment est-ce possible? Parce que vous dites, vous avez dit tout à l'heure, pardonnez-moi.
Moi, j'ai parlé de Paris 1 pour le droit.
Vous avez parlé de sélection aussi. Et donc, le gouvernement, semble-t-il, ne souhaite pas utiliser ce mot. Vous l'utilisez. Ça signifie que les étudiants ne pourront pas, au terme de Parcoursup, aller là où ils veulent.
Ils ne pourront pas aller à Paris 1, parce que c'est clair, 1000 places pour 20 000 demandes, on ne pourra pas accueillir 20 000 sur 1000 places. À moins de les entasser les uns sur les autres. Mais au niveau des universités franciliennes, il y a suffisamment de places pour accueillir tous les bacheliers dans la filière ou une des filières qu'ils ont demandé.
Mais oui, mais justement, c'est cela qui est...
Le problème, nous sommes Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avec une image, une marque. C'est clair.
Sauf vos autres copains des autres universités qui vont être satisfaits d'apprendre qu'ils vont avoir le droit de recueillir, par exemple, ces étudiants qui veulent faire droit, qui n'ont pas trouvé de place à Paris 1, Panthéon-Sorbonne et qui vont devoir aller dans une autre université.
Mais dans une autre université, je ne dis pas ça avec condescendance, je vous l'affirme, tous les premiers cycles universitaires sont équivalents. Alors, il y a une sorte d'imagerie, la Sorbonne. Panthéon-Sorbonne. C'est vrai que nous sommes une université
de qualité. Vous contribuez à la façonner, cette imagerie.
Non, parce que moi, je mets mes enfants dans d'autres universités. Moi, je mets mes enfants dans d'autres universités. Nanterre est du même niveau que Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour les premiers cycles, voire le reste. D'autres universités ont la même qualité. Mais il y a une sorte d'imagerie populaire, vous voyez, la Sorbonne. On veut être à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Moi, je dis à tous ces jeunes bacheliers, ne négligez pas les autres universités qui ont autant de compétences et autant de talents pour vous former, surtout au niveau des licences.
Vous êtes sûr que ce n'est pas un peu de la langue de bois, ça ?
Non, pas du tout. Puisque mes enfants ne sont pas à Paris 1. Une de mes enfants a été à Paris 1, ça a été un échec total. Et là, elle s'épanouit à Nanterre, où elle est très heureuse d'étudier.
Au-delà de ça, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'enseignement qui est fourni par la fac, au vu des moyens maigres dont vous disposez, est satisfaisant, sachant qu'il doit y avoir un rapport peut-être de 1 à 10 entre le coût d'un étudiant en français et le coût d'un étudiant américain ? Alors peut-être qu'il y a des surcoûts aux États-Unis, mais en tout cas, cette différence de coût, elle ne s'explique pas uniquement par le fait que tout est plus cher aux États-Unis. Elle s'explique aussi par le fait que aujourd'hui la fac est vraiment le parent pauvre de l'enseignement supérieur.
Bien sûr que c'est le parent pauvre de l'enseignement supérieur. Et pire encore, on les met en compétition, ces universités. Vous avez entendu parler des regroupements, vous avez entendu parler des communes, des fusions. Et on met.
Qu'est-ce que ça va produire, selon vous ?
Ça va produire des universités à géométrie variable et à prestige variable. Là aussi, on les incite à se regrouper, à fusionner pour être plus efficaces, plus compétitifs. Le syndrome de Shanghai, vous savez ce que c'est ? Le classement de Shanghai qui classe. C'est en train d'atteindre au plus profond des mentalités.
Pourquoi ?
Parce que, justement, les références sont dans ces classements. Alors que l'université, c'est le moyen et le long terme. Vous savez, la recherche, c'est pas l'immédiat, la recherche. On travaille pour l'avenir. Les grands projets de recherche qui ont abouti des décennies plus tard. Et c'est ça qui est important. C'est un investissement sur l'avenir. C'est pas un investissement sur le temps présent uniquement. Il faut investir pour l'avenir.
L'un des problèmes de la fac, c'est le mépris dans lequel sont aujourd'hui tenues un certain nombre de filières. Je pense notamment aux filières de sciences humaines. Alors, d'abord, je ne sais pas si vous allez acquiescer à ce jugement.
Non,
vous acquiescez pas à ce jugement.
Non, je n'acquiesce pas à ce jugement parce que je trouve que l'éducation doit tenir compte de dimensions transdisciplinaires et interdisciplinaires.
C'est le discours.
Mais bien sûr, un mathématicien qui n'a pas une dimension forte en sciences humaines, une formation, ne pourra pas être un citoyen convenable.
Mais c'est peut-être ce que vous pensez,
de la
encore
même
une
façon.
Fois, Georges Haddad.
Mais je suis sincère dans ce que je dis.
Dans les pouvoirs publics, il y a toujours eu, et je le sais par exemple pour la sociologie, mais le discours pourrait être tenu ailleurs, on a en France un vrai problème pour reconnaître les sciences humaines, donner les crédits qui sont nécessaires, et on considère bien souvent que un certain nombre de filières sont aujourd'hui des filières qu'on peut qualifier de filières de seconde zone, ou qui sont en tout cas moins bien dotées. Je l'ai vécu et vous le vivez quotidiennement.
Mais bien sûr qu'elles sont moins bien dotées. Vous savez, pour équiper un laboratoire de physique nucléaire, ça coûte beaucoup plus cher que pour équiper un centre de recherche en histoire, etc.
Mais surtout, on a des confessions de politique. On sait bien que ces gens-là considèrent que la socio, ça ne sert pas à grand-chose.
Ils commettent une erreur fondamentale.
Oui, ça
ils commettent
ça,
une erreur fondamentale.
Et
regardez même aux États-Unis, dans les universités américaines, les sciences humaines ont une part prépondérante, y compris dans la formation des scientifiques. Aujourd'hui, on ne veut pas des scientifiques bornés, spécialisés. On veut des scientifiques qui ont une vision du monde. Les mathématiques, vous savez, on dit que c'est une discipline sélective et tout. Les mathématiques sont une pensée du monde. On ne peut pas faire de mathématiques si on n'a pas une vision du monde et une capacité à anticiper sur le monde à venir. Les grands mathématiciens étaient des philosophes, étaient des artistes, étaient des musiciens. Or, aujourd'hui, on veut restreindre ça à sa portion la plus limitée.
Moi, j'aimerais que vous puissiez nous dire à quel point les filières qui ne sont pas des filières dites de sciences dures sont aujourd'hui dans un état misérable en France.
Elles sont dans un état de grande difficulté. J'aime pas le mot misérable, c'est un peu excessif, mais il y a une souffrance. Il y a une souffrance. Et on le voit bien dans les dotations aujourd'hui et dans les grandes compétitions. J'ai parlé des
IDEX. Moi, je vais vous donner un exemple.
Oui.
Je vais vous donner un exemple, Georges Haddad. Et j'ai connu plusieurs étudiants étrangers venant de pays tels que le Brésil, par exemple, qui arrivaient en France, voyaient les bibliothèques universitaires en histoire et en sociologie et qui repartaient en disant « on ne peut pas bosser dans ces conditions-là ».
Mais bien sûr. Et ils ont raison.
Alors vous voyez bien que c'est misérable.
C'est misérable, mais maintenant, ça ne veut pas dire que c'est foutu. On a les moyens, s'il y a une vraie solidarité universitaire, et j'en appelle à la solidarité universitaire, non seulement au niveau des présidents, des doyens, mais de tout le corps universitaire, tous les acteurs de l'université, pour permettre aux sciences humaines et aux sciences sociales d'accomplir leur rôle, qui est de fertiliser la pensée et de fertiliser la citoyenneté.
Alors, donc, ce mouvement, aujourd'hui, il s'est étendu à un certain nombre de facs. Vous dites que Tolbiac, aujourd'hui, c'est une sorte de Notre-Dame-des-Landes estudiantin. Ça va faire plaisir au pouvoir public. Il y a aujourd'hui des discussions qui sont en cours avec le gouvernement. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la ministre Frédérique Vidal?
Pour l'instant, rien. Je n'ai pas eu accès à la ministre pour l'instant.
Il y a votre
eu
téléphone accès... qui a sonné pendant le journal, c'était peut-être elle, mais...
Bon, son directeur de cabinet, nous sommes en contact. Le rectorat, bien sûr, je suis en contact. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu de contact direct avec la ministre et j'aurais aimé un appel de sa part pour me soutenir dans ce combat qui est le mien, pour sauver l'année universitaire.
Bon, mais au-delà de ça, parce que elle va peut-être vous apporter son soutien, son affection, mais ça ne suffira pas pour débloquer la situation, Georges Haddad.
Ah oui, mais débloquer la situation, c'est pas simplement au niveau de soutien matériel. Il faut rassurer, et je trouve qu'il y a une sorte de subtilité aujourd'hui dans le mouvement qui dépasse les contingences d'un discours politique. Ce n'est pas simplement un discours politique, il faut comprendre qu'il y a un mal-être aujourd'hui chez les jeunes, il y a une inquiétude, et cela ne se résout pas par des moyens supplémentaires qui mettront du temps. Là, nous sommes dans le temps, plutôt le temps long ou le temps moyen, nous ne sommes pas dans le temps court. Et là, il faut une dimension autre.
Qu'est-ce que l'on peut faire pour répondre à cette inquiétude alors?
Moi, je pense qu'il va falloir repenser notre système universitaire, notre système d'enseignement supérieur, repenser le lien entre l'université et les grandes écoles, repenser le contrat social qui lie l'enseignement supérieur à l'ensemble de la société. Là, je crois qu'il faut une vraie ambition. Ça prendra du temps, mais il faut commencer dès maintenant, parce que demain, il sera trop tard.
Aujourd'hui, il y a donc les résultats, les premiers résultats de Parcoursup qui sont attendus. Vous avez déjà les dossiers?
Alors, les dossiers ne nous sont pas encore parvenus. Nous sommes en train d'essayer de mettre des commissions par discipline. Certaines disciplines refusent d'établir ces commissions et ne voudront pas classer.
Qu'est-ce qui va se passer?
Là, parce que la directive ministérielle est simple. Le président est responsable.
Qu'est-ce que vous allez faire? C'est vous-même qui allez classer.
Il va falloir que j'étudie 10 000 dossiers, 20
Alors,
000
donc,
dossiers.
Outre le fait
bien sûr que je ne pourrais pas le faire.
Donc, outre le fait que ça va vous demander effectivement de vous priver de sommeil pendant quelques semaines, Georges Haddad.
C'est le cas déjà, donc c'est normal. Hein.
Mais il y a aussi le problème que vous êtes matheux et donc vous allez avoir du mal à classer des dossiers dans d'autres disciplines. Comment ça va se passer concrètement pour ces dossiers qui vont vous arriver dans des UFR qui ne veulent pas classer les dossiers de Parcoursup?
Eh bien, cher Guillaume, je n'ai pas de réponse, c'est mon cauchemar. C'est mon cauchemar aujourd'hui, quand des UFR vont refuser de classer, donc je n'ai pas le choix. Soit j'essaye de le faire de manière parallèle, ce qui est injuste, soit je transmettrai au rectorat tous les dossiers qui sont parvenus à l'université dans la filière dans laquelle nous n'aurons pas pu les classer. Et il appartiendra au rectorat, donc au ministère, d'assumer ses responsabilités. Comment voulez-vous qu'un président qui est élu, je le répète, je ne suis pas un fonctionnaire nommé. Dans 2 ans, au maximum, je ne serai plus président. Je redeviendrai ce que je suis, un enseignant et un chercheur. Mais là aussi, à l'impossible, nul n'est tenu, et donc je n'ai pas de réponse. Si des UFR ne veulent pas classer, je ne peux pas les réquisitionner. Nous ne sommes pas dans une situation autoritaire.
Merci Georges Haddad de nous avoir éclairé sur la situation actuelle de votre université, mais aussi plus généralement de ce qui était en train de se dérouler en France. Et on suivra évidemment attentivement ce qui va se dérouler.